Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Le facilitateur de l'EAC SADC encourage toutes les initiatives de paix en cours pour la RDC. Olusegun Obasanjo l'a dit hier au sortir de sa rencontre avec le président Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa. Au menu des échanges, la crise sécuritaire dans l'est du pays. Lutte contre le paludisme. Les enfants âgés de moins de 5 ans attendus très prochainement pour la campagne anti-malaria dans la province du Haut-Katanga. Annonce faite hier par une délégation du ministère de la Santé du gouvernement central en séjour à Lubumbashi. Et puis, l'RDC a organisé les états généraux de la justice il y a quelques mois. Quelle évaluation peut-on faire aujourd'hui de la mise en application des recommandations issues de ces assises? Pour en parler, nous recevons Maître Dieudonné Tshibwabwa, analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa Gombe, de Kananga et de Bruxelles. Madame, Messieurs, bonjour. L'ancien président nigérian, facilitateur de l'EAC SADC, Olusegun Obasanjo, encourage toutes les initiatives de paix en cours pour la RDC, que ce soit celle des États-Unis d'Amérique ou du Qatar. Il l'a déclaré hier mercredi à l'issue de l'audience que lui a accordé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, portant sur la crise sécuritaire dans l'est du pays. Plus de détails avec Billy Van Lutumba.
Obasanjo est l'un des facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est AEAC et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour contribuer à trouver des solutions au conflit armé qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. En provenance du Rwanda, il indique qu'ils explorent toutes les possibilités sur la situation entre le Rwanda et la RDC pour qu'il n'y ait plus des confrontations militaires et des violences. Il se dit satisfait des discussions entre lui et les deux chefs d'État. Après ces échanges, il compte rencontrer à Lomé le président Ngatimbe, médiateur nommé par l'Union africaine, en vue de lui faire part de sa démarche et des pistes envisagées pour une paix durable dans la région. Signalons que ces entretiens que mène l'ancien président nigérian surviennent dans un contexte diplomatique marqué par une avancée notable entre le Rwanda et la RDC. Déjà le 20 juin, à Washington, le département d'État américain a annoncé que les deux pays ont paraphé un accord de paix après 3 jours de négociations. Demain 27 juin, il est programmé en principe la signature par les chefs des diplomaties du Rwanda et de la RDC de ce texte en présence du secrétaire d'État Marco Rubio.
Pendant ce temps, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence poursuit sa visite ce jeudi dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu. Tom Fletcher, qui séjourne en RDC depuis le début de cette semaine, est allé se rendre compte de la situation humanitaire, en particulier celle des retournés de guerre à Kibumba et Bumba. Nous sommes à une 20 kilomètres au nord de Goma, dans le Nord Kivu. Reportage.
À Kibumba et Buhumba, selon les sources des OSHA, Tom Fletcher a visité ce jeudi, entre autres, les projets que l'ONG MEDER, en partenariat avec l'église baptiste au centre de l'Afrique, CBCA, exécute. C'est notamment au centre de santé de Buhumba. Dans ces centres, l'ONG MEDER procure un appui sanitaire, nutritionnel et de réintégration en faveur d'environ 20 000 retournés. Cet acteur humanitaire avait aussi contribué à la réhabilitation de cette structure sanitaire en février 2025 grâce au financement du fonds humanitaire. Après son arrivée dans la région, Tom Fletcher a visité mardi et hier mercredi deux projets d'assistance humanitaire en faveur de personnes déplacées, des retournés et des résidents locaux. C'est notamment à Minova, en territoire des Calais au sud Kivu, à Chacha et à Sake, en territoire des Masisi au nord Kivu. Rappelons qu'après son occupation de Goma, le mouvement rebelle AFC M23 avait démantelé en février 2025 des dizaines de camps de personnes déplacées dans la région. Plus d'un million de déplacés qui y vivaient sont retournés dans leur village. Cependant, ces derniers font face aux nombreux défis de réinsertion socio-économique et sanitaire nécessitant une assistance humanitaire d'urgence.
C'est un reportage de Bertin Kassiama. Rendons-nous en Ituri. Tous les leaders des groupes armés qui participent depuis lundi au dialogue de paix d'Arou 2 réitèrent leur engagement en faveur de la paix dans cette province. Ils l'ont exprimé hier mercredi à la troisième journée de ces assises consacrées à l'exploration des voies de sortie de cette crise qui a longtemps duré en Ituri. Ils demandent notamment au gouvernement de mettre des moyens conséquents pour l'efficacité du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants. Le compte-rendu de Martial Kizabia Mungu.
Les représentants des groupes armés CODECO, FRPI, MAPI et FPIC qui ont participé au dialogue de paix d'Arou 1 disent avoir respecté l'accord de cessation des hostilités malgré certaines failles. Des autres milices, Autodéfense et Chidi Yatuna, qui n'étaient pas représentés à ces assises, disent également avoir adhéré à ces processus assignant des accords unilatéraux de paix dont les résultats sont palpables, notamment le désarmement volontaire de leurs hommes. Pour pérenniser ces acquis, ils demandent au gouvernement de renforcer la présence des FRDC dans certaines entités pour assurer la protection des civils. À l'armée, de traquer les groupes armés non inclus dans ces processus, notamment les groupuscules de Mai Mai en provenance de Nord Kivu et les rebelles de Zadef qui sèment la désolation de la province. Mais surtout, de disposer des moyens conséquents au programme de désarmement pour une meilleure réinsertion des ex-combattants afin qu'ils ne soient plus tentés de reprendre les armes. Et de conclure que la pérennisation de ces acquis va permettre le retour des milliers de déplacés dans leur village d'origine. Depuis Arou, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette bonne nouvelle pour les parents du Haut-Katanga. Le programme national de lutte contre le paludisme va vacciner très prochainement les enfants âgés de 3 à 59 mois. L'annonce a été faite hier à la ministre intérimaire de la Santé par une délégation du ministère de la Santé du gouvernement central en séjour dans la capitale du Cuivre. L'objectif est de lutter contre cette maladie qui fait beaucoup de victimes chez les enfants de cette tranche d'âge. On écoute à ce sujet le docteur Guy Essebé, directeur adjoint au programme national de lutte contre le paludisme, propos recueillis par Jean Gandou.
C'est une intervention où nous allons administrer à nos enfants de 3 à 59 mois une molécule qu'on appelle la cifotaxine pyrimétamine et la modiaquine. Cette administration s'inscrit dans le cadre de nos interventions de la prévention dans la lutte contre le paludisme, parce que vous le savez, au niveau de la province du Haut-Katanga, nous avons un climat qui s'approche presque du climat du Sahel, où on a une longue saison sèche et puis va s'en suivre une saison de pluie avec de pluviosité intense qui commence déjà à partir du mois de septembre et du mois d'octobre. Et pendant cette période, il y a vraiment l'augmentation du nombre de cas de maladies de paludisme et de décès auprès de nos enfants de 3 à 59 mois. C'est alors que le programme de lutte contre le paludisme, ensemble avec ses bailleurs au niveau de l'OMS, nous avons prévu, dans le paquet de la prévention, mettre aussi une intervention si importante qu'on appelle le SMC. Dans cette intervention, ça va protéger au moins 75% de nos enfants contre le paludisme. Pour mettre l'intervention en place, nous allons prendre 6 zones de santé, parce que c'est une phase pilote.
Santé toujours. Du côté du Maniema, signalons le début de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne de 5 jours concerne 6 zones de santé. Plus de 800 000 enfants de 0 à 14 ans sont concernés par cette activité. L'équipe de vaccinateurs passe des portes à porte pour administrer ce vaccin aux enfants cibles. Le chef d'antenne du programme élargi de vaccination, PEV Kindou, appelle les parents ayant des enfants concernés de bien accueillir les vaccinateurs. Écoutez le docteur Walou Mba au Marie, au micro de Florence Kizalunga.
Cette campagne d'abord concerne 6 zones de santé de la province. Il s'agit de la zone santé d'Alunguli, de Kailo, de Kindu, de Lubutu, de Ferekeni et d'Obokote. Ce que nous allons demander aux parents, c'est de pouvoir garder les enfants à la maison parce que les équipes de vaccination vont devoir passer porte à porte pour vacciner tout enfant cible, c'est-à-dire l'enfant âgé de 0 à 14 ans révolu. Alors, il y a des stratégies spécifiques. Il y a bien sûr des écoles où les enfants, s'ils ont fini les examens, ils sont en vacances. Nous savons que pendant cette période-là, les enfants jouent beaucoup. Nous allons demander, surtout pour les parents qui ne restent pas à la maison toute la journée, de pouvoir donner des consignes claires aux gardiens d'en face pour que lorsque les équipes vont devoir passer, que ces gardiens-là puissent recevoir les équipes et que tout enfant cible soit vacciné contre la polio.
Du côté de Beni, au Nord Kivu, 17 personnes souffrant de la fente labiale, appelée bec de lièvre, ont retrouvé le sourire après avoir été opérées grâce à une campagne de soins gratuits menée à la clinique Ma Famille. L'initiative, réalisée en collaboration avec l'hôpital Île Africa de Goma, a ciblé principalement des enfants. Toutefois, selon la docteure Gisèle Kilomba, médecin directrice de la clinique Ma Famille, certains patients n'ont pas pu être opérés en raison de résistances socioculturelles. Docteur Gisèle Kilomba explique la situation au micro de Marc Marofimbo.
Nous avions sensibilisé 29, mais nous avons opéré 17. Les autres, là, il y avait des résistances culturelles, hein, parce qu'il y a de ces familles qui n'ont pas compris pourquoi ils ont eu des enfants pareils. Peut-être c'est la réponse des ancêtres. Donc c'est une malédiction. Il y a eu beaucoup de résistances socio-culturelles. Et même s'ils ne sont pas venus se faire réparer, mais nous les avons quand même sensibilisés, ils ont adhéré. La prochaine campagne, s'ils sont encore en vie, ils vont amener les enfants là aux soins. Dans notre contrée ici, d'abord, c'est l'inaccessibilité aux soins. Vous voyez, avec l'insécurité, beaucoup de familles n'accèdent pas facilement aux soins. Deuxièmement, il y a la malnutrition protéino-calorique dans nos familles. Beaucoup de familles sont habituées à la monotonie des aliments. Nous devons apprendre à varier l'alimentation. Surtout les filles, nos enfants filles sont appelées à la maternité. Donc, il faut vraiment une forte sensibilisation.
Restons au Nord Kivu. Le Centre international des formations des droits humains et développement, une organisation basée à Butembo, dénonce le monnayage des visites aux détenus dans la prison urbaine de Kakwangura. Dans une lettre adressée au maire de la ville, l'organisation précise que chaque visiteur est contraint par les gardiens et surveillants de verser 3000 francs congolais avant de voir les détenus. Jean-Baptiste Kakoulé, coordonnateur de cette organisation, exige l'arrêt de cette pratique qu'il qualifie de violation flagrante des droits des détenus. Il est joint par Martial Papi Mukeba.
Au premier poste de contrôle, une somme de 1000 francs congolais est exigée par les agents affectés à la sécurité, notamment des éléments de la PNC, FADC et etc. Au deuxième poste, ce sont les surveillantes pénitentiaires qui exigent à leur tour le paiement de 1000 francs pour permettre aux visiteurs de continuer le processus. Au troisième et dernier poste, à l'entrée immédiate du bâtiment carcéral, un élément de FRDC impose une nouvelle taxe illégale de 1000 francs congolais. Sans avoir payé ces 3000 francs congolais au total, les visiteurs se voient refuser l'accès aux détenus et il est systématiquement refoulé au maire de la ville de Butembo de mettre en place une commission d'enquête administrative locale en vue d'identifier les agents pénitentiaires, policiers, militaires ou autres intervenants impliqués dans le système de monnayage et de proposer des mesures disciplinaires appropriées.
Pas de réaction pour le moment du côté des responsables pénitentiaires ni celle du maire de Butembo. Rendons-nous dans la province du Bazouélé. La fondation Carole Aguito vole au secours des élèves finalistes du secondaire, candidats à l'examen d'État. Elle a remis hier au vice-gouverneur de province une enveloppe de 325 400 000 francs congolais. C'est pour couvrir leurs frais de participation à ces épreuves, ainsi qu'au jury national édition 2025. La cérémonie y afférente s'est déroulée à l'esplanade de la Caisse nationale d'épargne du Congo, Kadeko, au Bouta. Reportage de Jacques Moukonkolé.
Au total, plus de 4750 finalistes du secondaire bénéficient de cette assistance de la Fondation Carole Aguito Amela. Le coordonnateur de cette ASBEL, Jonathan Assia Aguito, a remis cette enveloppe publiquement au vice-gouverneur des provinces, Simon Agassa. Il justifie ce geste par le souci de contribuer à la scolarisation de la jeunesse, espoir de demain. Le vice-gouverneur des provinces, le ministre provincial en charge de l'éducation, ainsi que le directeur provincial de l'éducation ont remercié la Fondation Carole Aguito pour cette donation qui vient alléger la charge des parents, accablés par beaucoup d'autres problèmes d'ordre socio-économique. De leur côté, les bénéficiaires ont tout naturellement salué ce geste de bienfaisance et remercient vivement son initiatrice.
Tenons à remercier Maman Carole Aguito pour ce geste qui ne soit pas limité ici, que ça soit continuel, et nous disons merci pour ces gestes qu'il a fait pour nous.
Rappelons que cet appui de la Fondation Carole Aguito est le sixième du genre de manière consécutive dans cette entité. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le pape Léon XIV condamne fermement les abus sexuels commis par des prêtres et instruit que des mesures fortes soient appliquées dans le traitement de ces cas, donnant des ordres aux hiérarques catholiques du monde entier. Réunis hier mercredi dans la basilique Saint-Pierre, le pape a abordé entre autres le célibat des prêtres. C'est la deuxième fois en une semaine que le souverain pontife commente publiquement le scandale des abus et réaffirme sa tolérance zéro aux 400 évêques et cardinaux présents à ces célébrations spéciales de l'année sainte pour le clergé. Il a recommandé d'être des modèles pour leurs fidèles.
L'invité.
Quelle évaluation peut-on faire aujourd'hui de la mise en application des recommandations issues des États généraux de la justice, des assises tenues il y a quelques mois en République démocratique du Congo? Pour en parler, nous recevons Maître Dieudonné Tshibouaboua, analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et de Kananga en RDC et de Bruxelles en Belgique. Il s'entretient avec Blaise Chindani-Kambala.
Dieudonné Tshibouaboua, bonjour.
Bonjour Blaise.
Quelle évaluation peut-on faire aujourd'hui de la mise en application des recommandations issues des États généraux de la justice?
Vu qu'il n'y a pas un baromètre qui a été mis en place, il est difficile de donner une réponse claire. Mais seulement, il y a certaines résolutions, une ou deux, qui sont déjà mises en place. Mais je veux dire que la difficulté que nous avons, il n'y a pas une permanence dans le suivi de ces résolutions. Donc, pour avoir un baromètre et avoir une réponse claire, il aurait fallu avoir une commission permanente de suivi de ces résolutions. On peut voir où est-ce qu'on en est. Pour le moment, on ne parle que sur base des informations que nous avons de manière éparse, sans pouvoir vérifier. C'est ainsi que je peux dire, on ne peut pas donner réponse claire sur ces résolutions. Il y a plus de 300 résolutions, mais ça fait bientôt, je ne sais pas, 7, 8, 9 mois que les États généraux ont pris fin. Comment juger ces résolutions ou bien leur application? Vu qu'il n'y a pas cette commission permanente, du moins qui travaille, on ne peut pas aujourd'hui quelqu'un dire que nous avons tant de résolutions qui sont mises en place ou pas. C'est un peu ça la difficulté ou bien l'insuffisance à ce niveau.
Dites-nous, au cours de ces États généraux de la justice, l'une des propositions phares était celle de remplacer le Conseil supérieur de la magistrature par le Conseil supérieur de la justice, dans lequel siégeraient, entre autres, le président de la République et les ministres de la justice aux côtés des magistrats. En tant que juriste de formation, comment trouvez-vous cette proposition?
Moi, j'ai toujours défendu l'idée d'une justice indépendante. Et quand je parle de justice, la justice, ce n'est pas seulement lié à la magistrature, c'est un tout. Le modèle que nous avons copié, c'est le modèle français, ce Conseil supérieur de la magistrature, qui est différent du modèle belge, on parle du Conseil supérieur de la justice. C'est juste un problème de terminologie, mais dans l'applicabilité, c'est plus ou moins la même chose. Pourquoi? Parce que tant au niveau de la France qu'en Belgique, il n'y a pas que les magistrats de profession qui siègent dans ces deux conseils. En France, je veux vous dire qu'avant la réforme de 2008, le président de la République était président du Conseil supérieur de la magistrature. Son adjoint, c'était le garde des Sceaux, pour vous dire. Mais actuellement, même après la réforme, il y a des personnalités qui font partie du Conseil supérieur de la magistrature, qui sont des personnalités qui ne sont pas des magistrats. Il y a 6 personnes qui sont choisies par le président de la République, d'autres par l'Assemblée nationale, d'autres par le Sénat, pour vous dire que ce ne sont pas que des magistrats. En Belgique, c'est encore plus loin. Parce qu'en Belgique, il y a 44 membres, dont 22 sont francophones, 29 de l'andophone, et dans la moitié de chacun, il y a des non-magistrats, des personnalités. Pourquoi? Parce que la justice ne concerne pas que les magistrats. On ne doit pas avoir peur de la terminologie. Le fait de faire un conseil supérieur de la justice, ça concerne tout le monde. Et ça n'entravera pas dans l'indépendance de la justice qui est régie par la Constitution. Les articles, sauf erreur 159 et autres, de la Constitution qui faut vérifier, sauf forme erreur, parce que moi je ne suis pas habitué à bloquer les articles par cœur comme j'ai aimé bloquer, non, il faut aller lire. La Constitution est claire sur l'indépendance de la justice. Mais le Conseil supérieur, lui, a un autre rôle. C'est lui qui veille au fonctionnement de la bonne administration de la justice, c'est lui qui va adopter les budgets liés à la justice, c'est lui qui va veiller à prendre des sanctions s'il faut disciplinaires pour ceux qui ne respectent pas la justice. C'est un tout. Donc on ne doit pas aujourd'hui avoir peur de changer, d'étendre, bien de modifier en parlant du Conseil supérieur. Moi je veux même plus loin, moi je parle même du Haut Conseil de la Justice. Donc c'est un peu ça ma proposition.
Le président de la République avait dit que la justice était malade. Pensez-vous que, telles que les recommandations des États généraux sont mises en pratique, ça pourrait apporter une cure de jouvence pour que la justice se rétablisse?
Il n'y a pas que les États généraux. Les États généraux, quel est l'objectif? C'est de mettre tout le monde ensemble, toutes les parties prenantes, pour que les gens réfléchissent quels sont les problèmes. Donc, le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on constate que la justice est malade. Si vous lisez la passion de l'État de M. Léon Kérouando, de l'ancien Premier ministre. Je parle que dans les années 67-68, le président Mobutu avait donné une commission de remettre de l'ordre à la justice qui était malade. Donc il y a toujours des problèmes. Aucune justice n'est parfaite, c'est vrai, mais on essaie de soigner avec les moyens que nous avons et aussi en fonction des outils que nous avons en nos mains. Donc la justice est malade, il faut voir quelles sont les causes. Il peut y avoir des causes structurelles. Quelles sont les conditions de vie, les conditions de celles des magistrats? Parce que c'est eux qui rendent la justice. Quand quelqu'un n'a pas de quoi manger et qu'on vient lui proposer l'argent pour qu'il rende un jugement qui va dans un sens, vous comprenez, je ne justifie pas le fait qu'il le fasse, mais simplement c'est cette situation sociale. Et aussi, quels sont les moyens mis en place, point de vue, les outils modernes pour rendre la justice? Quand vous avez des magistrats qui sont assis sous un arbre, comment voulez-vous qu'ils rendent une bonne justice? Donc, il y a pas mal d'éléments. Nous devons réfléchir ensemble sur les mesures qui peuvent aider l'ordre judiciaire à se performer et les magistrats à travailler dans de bonnes conditions et rendre des bonnes justices. Mais tout en sachant que tout dépend de la personne. Quand vous êtes magistrat, comme je dis, soyez fier de votre titre. Vous êtes un haut fonctionnaire. Donc, on doit vous respecter. Vous êtes honorable. Mais maintenant, vous savez savoir que l'honneur ne marche pas avec la corruption. Donc, chacun a sa conscience.
Maître Dieudonné Tshibwabwa, analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et Kananga en RDC et de Bruxelles en Belgique. Je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Blaise Shindani Kambala. Par ici prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe, à la mise en onde Pierre Diassinois. Merci d'avoir été des nôtres.